Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le 8e dimanche après la Pentecôte. Et le bon Dieu va donner à ses disciples, à ses apôtres, une parabole. Cette parabole s'adressait à ses apôtres, à ses disciples, mais s'adresse bien sûr aussi et surtout à nous. Il raconte l'histoire d'un homme riche qui avait un économe. Et celui-ci fut accusé auprès de lui d'avoir dissipé son bien. Il le fit donc venir et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mon bien. » Cette histoire, mes bien chers frères, c'est la nôtre. Cet homme riche, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ. L'économe, c'est chacun d'entre nous. Le bon Dieu nous a confié une âme. Le bon Dieu nous a donné un certain nombre de biens naturels, de biens temporels, mais aussi de biens surnaturels. Et il nous a placés sur la terre pendant un certain nombre d'années, un nombre d'années relativement limité, pas plus d'une centaine. Et il va nous demander un jour de rendre compte de ce que nous avons fait, de ces biens qu'il nous a donnés. Comment nous sommes-nous occupés de notre âme? Et un jour, nous aussi, le jour de notre mort, le jour de notre jugement en particulier, nous entendrons la même question. Qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? Rendez compte de votre gestion. Et il nous faut, mes bien chers frères, nous préparer à cette question. Ce n'est pas le jour où nous l'entendrons, le jour de notre mort, que nous pourrons nous préoccuper de ces choses-là. Il faut nous en préoccuper maintenant. Donc la première question qu'il faut nous poser est la suivante, si aujourd'hui même, pendant que j'écoute ce sermon, si le bon Dieu me rappelait au milieu de ce sermon, facile d'avoir une crise cardiaque, un petit vaisseau qui alimente le cerveau, qui se coince, qui se bouche, avec un petit caillot, et c'est fini. On passe de l'autre côté. On passe du temps, l'éternité. On passe des choses qui passent aux choses qui ne passent pas. Alors le bon Dieu va nous poser la question. Rends compte de ta gestion. Rendez compte de votre gestion. Et qu'est-ce que je vais répondre? Est-ce que j'ai les mains vides devant notre Seigneur ou est-ce qu'au contraire, j'ai les mains pleines? Est-ce que j'aurai quelque chose à apporter à notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour moi sur la croix ou est-ce qu'au contraire, j'aurai rien du tout à donner? Voilà la question qu'il faut nous poser. Le bon Dieu va sans doute nous dire « Je t'ai fait naître dans une famille catholique. J'aurais pu te faire naître dans une famille bouddhiste, protestante, laïque. Je t'ai fait naître dans une famille catholique et tu as reçu le baptême comme bébé. Tu as reçu, le jour de ton baptême, la grâce de la foi, l'espérance, la charité. L'amour de Dieu a illuminé ton âme. Et à partir de l'âge de raison, qu'as-tu fait de ce don de la charité, de l'espérance et de la foi? Est-ce que d'abord tu as pensé à me remercier pour ce baptême? Et je t'ai donné dans cette famille qui t'a reçu, je t'ai donné une éducation catholique que tu as reçue jusqu'à ce que tu quittes la maison. Qu'as-tu fait de cette éducation? Encore une fois, j'aurais pu te faire naître dans une famille païenne, tu n'aurais rien reçu du tout. Peut-être que tu as reçu une bonne école catholique, une vraie école catholique. Qu'as-tu fait de tout cela? Et après, je t'ai donné le sacrement de pénitence. Pour pardonner tes péchés, l'as-tu utilisé? As-tu pris soin de te confesser aussitôt que possible si tu avais eu le malheur de commettre un péché mortel? J'ai mis à ta disposition une nourriture substantielle, une nourriture spirituelle extraordinaire. Mon corps, mon sang, mon âme et ta divinité. Et ma divinité, as-tu utilisé cette nourriture? Ou est-ce qu'au contraire, as-tu resté loin des sacrements pendant longtemps? Puis ensuite, je t'ai donné toute une série de choses. Je t'ai donné peut-être le sacrement de mariage. Je t'ai donné la grâce d'étudier, la grâce de connaître la foi. Peut-être que je t'ai même donné la grâce de connaître la tradition de l'Église. Et tu es resté fidèle à tout ce que tu as reçu? Ou est-ce que, comme beaucoup d'autres, tu as méprisé mes dons, comme Judas? As-tu transmis cette foi? Je t'ai donné des enfants. Est-ce que tu as pris soin de donner à tes enfants la nourriture, pas simplement temporelle, mais surtout la nourriture spirituelle dont ils avaient besoin? Est-ce que tu as transmis? Est-ce que tu as utilisé les trois obligations de toutes les personnes qui sont en charge d'âme? Que tu as rempli ton devoir de magistère, de ministère, de gouvernement? Est-ce que tu as rempli ton devoir d'enseigner, d'éduquer l'éducation, l'intelligence de tes enfants? Est-ce que tu as sanctifié par le ministère toi-même et tes enfants? Est-ce que tu as pris garde de donner ce que je t'avais donné, de rendre à d'autres, de transférer à d'autres ce que je t'avais donné? Est-ce que tu as dirigé tes enfants? Ou est-ce qu'au contraire, tu as laissé tes enfants faire n'importe quoi? J'avais donné le baptême à tes enfants. Est-ce que tu as surveillé l'état de grâce dans ces âmes dont tu avais la charge? Ou est-ce qu'au contraire, tu as laissé le démon rentrer dans les âmes de tes enfants? Est-ce que, par exemple, ta jeune fille de 16-17 ans, que je t'avais confiée, ta fille, est-ce que tu l'as laissé faire du n'importe quoi? Est-ce que tu l'as laissé abîmer son âme, détruire son âme en se promenant à moitié nu pendant l'été, au grand dam de son âme? Et elle vit maintenant par ta faute, en état de perdition, en état de péché mortel. Je t'avais donné un enfant, un garçon de 16, 17 ans, 18 ans. Est-ce que tu t'en es occupé? Est-ce que tu l'as formé pour qu'il devienne un jour le sel de la terre, la lumière du monde? Qu'il devienne un jour comme un paratonnerre pour les autres? Ou est-ce que tu as tout laissé tomber? Rends compte de ta gestion. Et pour ceux qui n'ont pas eu la grâce du baptême comme bébé, mais qui ont découvert le bon Dieu plus tard, à vous, je vous ai donné, cette fois-ci, la grâce de la conversion, à 25 ou 30 ans. Je vous ai amené faire une retraite, par exemple, les exercices Saint-Ignace. Et là, vous avez compris la grandeur du bon Dieu, la grandeur des dons de Dieu. Vous avez compris le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, vous avez voulu y participer en demandant vous-même le baptême. Et vous avez reçu la grâce du baptême à 25 ou 30 ans. Il y a des millions de personnes de 25 ou 30 ans sur cette terre qui ne recevront jamais la grâce du baptême. À vous, je l'ai donnée. Qu'avez-vous fait de cela? Avez-vous rattrapé le temps perdu? Est-ce qu'au contraire, vous avez refusé de profiter de ces grâces, un signe que je ne donne pas à tout le monde? Je vous avais peut-être donné la grâce de la vocation religieuse. Ou j'avais peut-être donné cette grâce à certains de vos enfants. Qu'avez-vous fait de cette grâce pour eux? Est-ce qu'ils ont pu répondre à cette grâce de la vocation par une bonne formation? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez abandonné vos enfants pour que lentement l'esprit du monde, l'esprit de liberté, l'esprit d'égalité, l'esprit de fraternité pénètre dans leur âme pour tout détruire? Est-ce que vous avez agi comme un bon catholique? Ou est-ce que vous avez réagi comme les juifs? Eux aussi avaient tout reçu. Ils avaient reçu la connaissance du vrai Dieu par les prophètes pendant l'Ancien Testament. Je leur ai envoyé tous ces prophètes pour leur annoncer le Messie qui allait venir. Et lorsque je suis venu, lorsque j'ai envoyé mon fils, eux le recevoir et l'ont crucifié. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? en quoi t'ai-je consisté? Est-ce que je ne peux pas reprendre pour vous, maintenant, les impropères du Vendredi Saint, les reproches que j'ai fait à mon peuple, qui était mon peuple élu, et qui, au lieu de me reconnaître comme le Messie, le Libérateur, le Sauveur, m'a crucifié? Je t'ai tiré de la terre d'Égypte, et toi, tu as préparé une croix à ton Sauveur. J'étais conduit dans le désert pendant 40 ans, j'étais nourri de la manne et fait entrer dans une terre de choix. Et tu as préparé une croix à ton Sauveur. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai point fait? Moi-même, je t'ai planté comme la plus éclatante de mes vignes, et tu m'as donné que de l'amertume, car dans ma soif, tu m'as abreuvé de vinaigre et tu as percé d'une lance le côté de ton Sauveur. Par amour pour toi, j'ai frappé l'Égypte dans ses premiers-nés, et toi, tu m'as livré à la mort après m'avoir flagellé. Je t'ai tiré d'Égypte, et j'ai submergé Pharaon dans la mer rouge. Et toi, tu m'as livré au prince des prêtres. Je t'ai ouvert un passage dans la mer rouge, et toi, tu m'as ouvert le côté avec ta lance. J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée, et toi, tu m'as mené au prétoire de Pilate. Je t'ai nourri de la manne dans le désert, et toi, tu m'as meurtri de souffle et de coups. Je t'ai abreuvé de l'eau salutaire sortie du rocher, et toi, tu m'as abreuvé de fiel et de vinaigre. À cause de toi, j'ai frappé les rois de Canaan, et toi, tu m'as frappé la tête avec un roseau. Je t'ai donné le sceptre de la royauté, et toi, tu as mis sur ma tête une couronne. Je t'ai élevé à une haute puissance, et toi, tu m'as attaché au gibet de la croix. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Et toi qui m'écoutes, je t'ai tout donné. Je t'ai donné le baptême, la grâce sanctifiante et les moyens de la conserver. Tu ne l'as pas conservé. Tu as méprisé tous mes dons. Que t'ai-je fait? Alors, mes bien chers frères, mes bien chers amis, faisons un examen de conscience. Si je sais que si le bon Dieu me demandait aujourd'hui cette question toute simple, rends compte de ta gestion, car c'est le temps maintenant de passer de la terre au ciel, de passer du temporel, de ce qui passe à ce qui ne passe plus, à l'éternité. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de tous les dons que je t'ai donnés? Alors, mes bien chers frères, réfléchissons à ces choses-là. Encore une fois, ce n'est pas lorsque nous serons sous 20 cm de pierre, de terre, dans un cimetière, dans un cercueil, qu'il faudra penser à ces choses-là. Il faut y penser tout de suite. Parce que la mort arrive, plutôt qu'on ne le croit. Un jour, il y aura une séparation entre mon corps et mon âme. Et mon âme sera jugée par Dieu, au lieu même de ma mort. C'est ça la mort physique. À l'instant même de ma mort, au lieu même de ma mort, au lieu même d'un accident de la route ou n'importe comment, sur un lit d'hôpital, au moment précis où je meurs, où mon âme est séparée de mon corps, à cet instant précis, à ce lieu précis, à lieu jugement particulier. Est-ce que je me préoccupe de cette mort physique ? Qui va arriver à tout le monde, même aux gens très bien, même aux grands riches, même aux super pauvres. Est-ce que je me préoccupe d'une mort encore plus grave que celle-là? La mort spirituelle, le passage de l'état de grâce à l'état de péché mortel. On dit que le plus triste jour dans une âme, dans la vie d'une âme, sur la terre, c'est le jour où un enfant baptisé commet son premier péché mortel. Quand il perd pour la première fois la grâce du bon Dieu qu'il a reçue au baptême, ce jour-là, son ange gardien pleure. Est-ce que j'y pense? Est-ce que je réalise toutes ces choses-là? Est-ce que je sais qu'un jour, il y aura malheureusement, pour moi, si je ne fais pas attention ici-bas, si je vis n'importe comment, si je reste dans le péché mortel, une troisième mort, la pire de toutes? La mort éternelle, le passage de cette terre à une éternité de malheur. Avec la peine du dent, la peine du feu, ce qu'on appelle l'enfer. Ce lieu épouvantable dans lequel le bon Dieu est obligé d'envoyer tous les pécheurs qui ne veulent pas changer de vie. Qu'il est triste de voir que la plupart des gens ici-bas ne se préoccupent que de la mort physique et oublient complètement la mort spirituelle et la mort éternelle. Alors, au moment de ma mort, au moment de cette séparation entre le corps et l'âme, le bon Dieu va me poser cette question encore une fois, rends compte de ta gestion. Désormais, tu ne pourras plus gérer mon bien. Il y aura un jugement particulier. Comme un clignement d'œil. Ça ne durera pas plus longtemps qu'un clignement des yeux, un quart de seconde. Et là devant nous, il y aura qui? Devant moi, il y aura le bon Dieu, bien sûr, venu juger avec la croix. Il y aura la Très Sainte Vierge Marie, il y aura Saint Joseph, il y aura l'ange gardien, et il y aura le démon. Est-ce que malheureusement le démon ne pourra-t-il pas dire, ne pourrait-il pas dire, cette âme m'appartient parce qu'elle est morte dans un tas de péchés? Et comme après la mort, il n'y a plus de changement, puisqu'il n'y a plus de temps, on n'est plus dans le temps, qu'on est passé dans l'éternité, qu'il faut être dans le temps pour pouvoir changer, si j'ai passé le temps, je ne peux plus changer. Parce que pour changer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du temps d'abord. On ne change pas en 5 minutes. Il faut l'usage de notre liberté. Et il faut la grâce du bon Dieu. Dans l'éternité, il n'y a plus de temps. Dans l'éternité, il n'y a plus de grâce. Dans l'éternité, il n'y a plus d'usage de notre liberté. C'est trop tard. Il est évident que cette phrase, rends compte de ta gestion, s'adressera à chacun d'entre nous, mais que le bon Dieu ne jugera pas chaque âme de la même façon. Il n'y a pas d'égalité entre les âmes. Chaque âme est différente. Rappelez-vous la parabole des talents. Tout le monde n'a pas reçu le même nombre de talents. Le bon Dieu ne va pas juger de la même façon une âme qui n'a jamais entendu parler du bon Dieu et une âme qui a été baptisée comme bébé. Le bon Dieu ne jugera pas de la même façon une personne qui a reçu une éducation traditionnelle, qui connaît la foi catholique traditionnelle, une personne qui passait par le modernisme, qui a tout oublié, tout abandonné. Combien de talents ai-je reçu? Qu'est-ce que j'ai fait des talents que le bon Dieu m'a donnés? Et n'oublions pas que le bon Dieu ne se contente pas que nous lui rendions le nombre de talents que nous avons reçus. Si j'ai reçu 5 talents, il ne se contente pas d'avoir les 5 talents. Il ne s'agit pas de dire au bon Dieu, voilà mon Dieu, vous m'avez donné 5 talents, je vous les rends, ils sont à vous. Non? Parce que si j'ai reçu 5 talents, le bon Dieu m'en demande 10. Il demande que je fasse fructifier ces talents. Alors, pensons à ces choses, mes bien chers frères, mes bien chers amis. C'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le salut de mon âme. Tous ceux qui ont besoin un petit peu de se rafraîchir les idées sur ce sujet-là, relisez, ou lisez si vous ne l'avez pas encore lu, le magnifique livre du père Richard Torrens, du Nombre des élus, un grand classique. Je crois qu'il a été réédité il y a peu de temps aux éditions Saint-Rémy par M. Saglio. Commandez-le, lisez-le, méditez-le. Toutes les grandes citations de l'Écriture sainte sur le salut, la chose la plus importante à faire, l'affaire de mon salut, tout est là-dedans. Relisez-le. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Que sert à l'homme de gagner même le monde à Dieu s'il vient à perdre son âme? Que sert à l'homme d'avoir fait des choses extraordinaires, même, dit saint Paul, d'avoir donné mon corps pour être brûlé pour les pauvres? Si j'ai perdu mon âme, si je suis destiné à entendre le jour de ma mort, retirez-vous de moi, maudit, et allez au feu éternel, préparé pour Satan et pour ses anges. Alors il faut nous préparer. Et l'épître aux Romains d'aujourd'hui, l'Église a choisi l'épître aux Romains au chapitre 8 pour ce 8e dimanche, dit exactement la même chose. Que si vous vivez selon la chair, dit saint Paul, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Donc posons-nous la question toute simple, est-ce que je vis selon la chair ou est-ce que je vis selon l'Esprit? Est-ce que mes yeux sont toujours fixés sur cette terre, sur cette boue d'ici-bas, ou est-ce qu'au contraire mes yeux sont montés vers le ciel où le bon Dieu m'attend? Car, dit saint Paul, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Aussi n'est-ce point l'esprit de servitude que vous avez reçu pour rester encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous sommes enfants, mais nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc si je vis selon la chair, si je vis selon les principes du monde, si je vis selon les principes de ce monde maçonnisé, de liberté, d'égalité, de fraternité, je mourrai. Si au contraire je vis selon l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, alors je vivrai. Soit j'ai en moi l'esprit de crainte et de servitude, je ne pourrai pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ parce que tous mes regards seront portés sur moi-même, soit au contraire j'aurai l'esprit d'adoption qui fera de moi un enfant du bon Dieu. Et plus qu'un enfant du bon Dieu, Saint Paul nous dit un héritier, héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Est-ce que je réalise ce que ça veut dire d'être héritier de notre Seigneur Jésus-Christ ? Recueillir tous les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ, recueillir toutes les richesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il faut réfléchir à ces choses. Vous savez, le bon Dieu ne juge pas comme nous. Souvent, on accable d'injures les gens qui, selon nous, ne vivent pas selon la loi du bon Dieu. Mais on oublie de se regarder dans une glace. Est-ce que je regarde la quantité d'orgueil astronomique qui est dans mon âme? Est-ce que je ne me suis pas moi-même cru bien au-dessus des autres? Est-ce que je méprise tous ceux qui sont autour de moi? Combien de fois j'ai vu ça malheureusement dans certaines chapelles, notamment quand j'étais dans la fraternité Saint-Pilis. Ces nouveaux qui arrivent, qui n'ont peut-être pas encore la foi, qui ne connaissent pas grand-chose de la foi catholique, au lieu de se réjouir de les voir arriver dans notre chapelle, les catholiques BCBG, comme on dit, bon chic, bon genre, se regardent entre eux et disent, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous celui-là? D'abord, il n'a pas une cravate, il n'a pas une chemise blanche, qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est certainement un espion envoyé par les ennemis pour détruire notre chapelle. Et au lieu d'accueillir cette personne avec générosité, avec bonté, avec charité, pour l'aider à trouver la foi, on le méprise. Et j'ai vu des gens qui sont venus comme ça une fois, deux fois, qui sont partis au courant. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que cette chapelle? C'est une secte. Alors le bon Dieu nous demandera, ça c'est sûr, le jour de mon jugement, qu'as-tu fait des biens que tu as reçus? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Tu as dissipé mon bien? Rends compte de ta gestion. Je vais envoyer la tête dans telle chapelle, telle et telle personne, qui venait peut-être d'un milieu tout simple, mais j'avais prévu que c'était toi qui devais les amener au confessionnal pour qu'ils se convertissent. Et au lieu de le faire, au lieu de le prendre par la main pour l'aider à remonter vers le bon Dieu, tu l'as méprisé, tu l'as écrasé sous ton orgueil. Ah, mes bien chers frères, comme nous sommes peu de choses, alors demandons, en ce 8e dimanche après la Pentecôte, demandons au bon Dieu de nous aider à comprendre toutes ces choses, à les mettre en pratique, à nous préparer à ce jugement en particulier qui arrive à toute vitesse, pour que le jour où j'entends cette phrase de notre Seigneur, rendez compte de votre gestion, je puisse dire au bon Dieu, mon Dieu, avec votre grâce, j'ai quelque chose dans mes mains. J'ai d'abord mon âme en état de grâce, et l'âme de mes enfants, et mon épouse en état de grâce, ou mon époux en état de grâce. Voilà ce que j'ai fait. Alors passons, mes bien chers frères, passons par la très sainte Vierge Marie, passons par celle que le bon Dieu a mis sur notre chemin pour nous obliger à remonter les yeux vers son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Passons par la très sainte Vierge Marie. Elle est l'image de notre Seigneur, elle est le pont, le cou qui nous réunit à notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Bernard dit, elle est l'aqueduc. L'aqueduc, c'est un canal qui fait passer l'eau de la source à la fontaine. Si l'aqueduc est coupé, il n'y a plus d'eau à la fontaine et on meurt de soif. L'aqueduc, c'est la très sainte Vierge Marie. Passons par la très sainte Vierge Marie et demandons-lui toutes les grâces dont nous avons besoin pour que nous soyons fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Et que si nous nous rendons compte que nous avons, de par le passé, plusieurs fois été infidèles, nous avons mal géré les biens qui nous avaient été confiés, que nous puissions nous prendre en main pour qu'encore une fois, le jour où le bon Dieu me demandera « Qu'as-tu fait de ta gestion ?»« Qu'as-tu fait des rencontres de ta gestion ?» Je puisse dire au bon Dieu, « Mon Dieu, avec votre grâce, je vous présente une âme qui est en état de grâce. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.